Vous écoutez toujours Radio Panique, il est 13h08, nous sommes dans l'heure de pointe, on vient d'écouter Jusqu'à ce qu'il fasse jour de Caroline Berliner qui nous a rejoint en studio. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Avec nous il y a aussi Palmina.
Bonjour.
Et
bonjour,
on a une bonne vingtaine de minutes pour un peu parler de ce documentaire radiophonique qu'on vient d'écouter. D'abord merci pour la proposition d'écoute Caroline.
Merci à vous de l'avoir diffusé et de m'accueillir aujourd'hui.
Et moi, je voulais d'abord te demander quel avait été le point de départ du désir de faire de ce documentaire et peut-être aussi de l'opportunité, parce qu'aller faire un documentaire radiophonique en Haïti n'est pas forcément un truc qui se présente tous les jours. Comment ça s'est monté, créé ?
Alors en fait, j'ai eu l'occasion d'aller en Haïti en septembre 2009 pour aller en vacances, pour rendre visite à une amie qui était partie s'installer là-bas pour y travailler comme journaliste indépendante à la base. Et en fait, Maud partait depuis quelques années en Haïti parce qu'elle était administratrice de la Charge du Rhinocéros, qui est une association de production ici en Belgique, qui soutenait un festival de théâtre qui s'appelle toujours le Festival de théâtre Quatre Chemins. Et elle m'avait dit, si tu viens me rendre visite, viens plutôt au mois de septembre, quand le festival de théâtre a lieu. Ça te permettra de rencontrer la vie artistique porto-princienne, de rencontrer des jeunes gens qui font du théâtre, comme moi, parce que moi, je viens de là, en fait. Je suis comédienne, j'ai été formée à l'INSAS. Et du coup, j'ai passé 3 semaines à Port-au-Prince en 2009 à suivre les ateliers de dramaturgie auxquels ils assistaient, à voir leurs spectacles et à rencontrer en fait des jeunes gens qui avaient le même âge que moi, qui étaient dans les mêmes préoccupations que moi, qui se demandaient comment, de quoi ils avaient envie de parler, comment ils avaient envie d'en parler. Et voilà. Et en fait, il se trouve que 4 mois après a eu lieu le tremblement de terre. Et du coup, les gens que j'avais rencontrés ont soit quitté Haïti, soit arrêté le théâtre. Et de cette rencontre forte, très forte que j'avais eue, je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis à un moment donné, l'idée de faire de la radio et puis l'idée de parler d'Haïti se sont rejoints. Et je me suis dit que voilà, j'avais envie de rendre hommage de pouvoir témoigner de ce que j'avais vécu moi, qui je me semblait être un accès très vivant et... À la jeunesse haïtienne, en fait.
Et c'est ta première réalisation radiophonique ?
Oui, c'est mon premier projet radio. Oui.
Et donc, pourquoi cette connexion entre cette expérience et la radio particulièrement ? C'est un hasard des circonstances ou bien il y a vraiment... ça te semblait le médium le plus approprié pour...
En fait, ça me semblait... j'avais envie de faire de la radio depuis longtemps, j'avais envie de réaliser un documentaire, mais voilà, les sujets tournaient, j'avais déposé un premier projet au FACRE qui n'était pas passé sur l'histoire du punk, voilà. Et en fait, effectivement, en repensant à Haïti, je voulais travailler... Enfin, voilà, en voulant témoigner de ça, je me suis dit que la radio était... un super bon médium parce que déjà l'univers sonore qui est là-bas est saisissant et parce qu'en plus on se balade pas dans les rues de se balader dans les rues de Port-au-Prince avec une caméra ou avec un micro, c'est pas du tout la même chose. Et je voulais être dans quelque chose d'assez humble dans le médium, de pouvoir rapidement saisir et puis rapidement témoigner et puis d'utiliser des moyens, enfin de ne pas devoir utiliser des énormes moyens pour témoigner de ça, parce que je voulais être dans quelque chose, oui, de humble, de oui, je sais pas si ça répond à ta question.
Oui.
Alors, merci pour ce très beau documentaire qui est au fond un hymne à la vie. Ce qui frappe justement, c'est cette ambiance qu'il y a à Port-au-Prince, même après toutes ces tragédies. Et même si la ville est encore un véritable chaos, on a l'impression qu'il y a un climat de fête permanent. Est-ce que ça a été monté comme ça ou bien la ville donne cette impression de joie de vivre en dépit de tout ce qu'il y a?
Alors je sais pas si c'est de la joie de vivre, si moi j'appellerais ça de la joie de vivre, mais je comprends très bien ce que vous dites, dans une certaine énergie et dans une certaine effectivement forme de vitalité permanente. Moi les voyages que j'ai fait à chaque fois en Haïti, même si on est confronté à une réalité qui peut sembler vraiment parfois désespérante en se demandant comment est-ce qu'on va sortir de tout ça, Je suis jamais revenue atterrée, en fait, au contraire, je suis revenue avec une énergie très très forte. Et cette énergie, voilà, je voulais effectivement que le documentaire puisse rendre compte de ça, de cette confrontation aux choses, de cette manière de très radicale, en fait, d'être dans les choses, en fait.
Oui, il y a une forme de... Enfin, on pourrait plutôt parler de résilience, en fait, ouais. Aussi, que de joie de vivre.
Oui, sûrement. Enfin, d'une... Bon, alors après, il y a... Par exemple, il y a un des personnages dans le documentaire, c'est une interview que j'ai pas gardée, mais où il parle justement de la résilience, et où il dit... après le tremblement de terre, on a eu plein de conférences sur la résilience. Boris Cyrulnik est venu. Et puis nous, on était tous à dire, mais attends, mais la résilience, c'est comme ça, c'est ce qu'on est. Pourquoi est-ce que maintenant tout le monde vient nous parler de résilience, en fait?
Ouais. Ouais. Y a un thème qui revient assez régulièrement, qui est l'exil.
Ouais.
Et effectivement, j'ai l'impression que pas mal, notamment d'artistes haïtiens, se sont exilés. Je pense notamment à beaucoup de plasticiens, en fait, presque toute la scène art plastique d'Haïti, en fait, maintenant, elle n'est pas à Haïti. Évidemment, quand on fait du théâtre, c'est plus délicat de garder sa pratique artistique et de quitter le pays.
Oui. Alors, oui, disons qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, d'artistes haïtiens qui sont partis, mais en général, ils gardent tous quand même une attache, un lieu à Port-au-Prince. Les artistes qui peuvent partir font quand même souvent des allers-retours. Et effectivement, cette question de l'exil est présente chez quasi tous les Haïtiens, quels que soient les moyens dont ils disposent ou pas pour quitter, pour rester. Enfin, quitter ou rester, c'est vraiment une question permanente, je dirais, chez les jeunes gens là-bas, et qui pose aussi un gros problème dans la reconstruction qu'on attend toujours là-bas, parce que effectivement, dès qu'on a les moyens de partir. On les prend parce que là-bas c'est très difficile d'avoir accès à une université de qualité. Donc les jeunes gens partent. Alors il y en a qui reviennent après. Mais ça crée un problème effectivement de relève de relève du pays, puisque ceux qui ont les moyens qui auraient les moyens de le faire s'en vont généralement. Mais
tu as, dans la façon dont tu as fait ce documentaire, tu es au départ assez absente. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas une construction qui s'impose. En tout cas, la construction n'est pas exposée par une voix off ou par une présence très, très prégnante de ta part. Mais tu es là quand même aussi, oui. On t'entend de temps en temps, avec d'ailleurs des traces de l'enregistrement en fait, que tu mets en scène en quelque sorte.
C'est ça, oui. Oui, alors... au début du montage, je m'étais posé la question de me faire complètement disparaître pour vraiment laisser les personnages. Et en fait, ça marchait pas, les séquences marchaient pas, parce que c'est dans la rencontre entre eux et moi que ça s'est passé, en fait. Et que les personnages, enfin les Johnny, Lovely et Billy ne sont pas des experts sur Haïti, ne sont pas des gens dont la parole et c'est pas comme ça que moi je les ai rencontrés, en fait. On s'est rencontrés ensemble, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est créé ensemble. Donc effectivement, l'idée de les mettre moi c'est ce que je demandais à Félix Blum, l'ingé son qui travaillait avec moi, c'est-à-dire de mettre le micro sur eux, mais que je puisse exister, en fait, dans le champ, enfin voilà. Et je voulais essayer qu'il n'y ait pas de voix off. Ça, c'était, voilà. Je voulais voir comment est-ce qu'on pourrait arriver à construire sans qu'il y ait besoin d'une voix extérieure. Voilà, que la narration se trouve dans le montage.
Ouais. Ce qui permet du coup une écoute, enfin on en parlait un petit peu hors antenne, une écoute que je trouve en fait assez radiophonique, où on peut rentrer, sortir, focaliser son attention sur quelque chose, et éventuellement, il y a une construction un peu impressionniste qui fait qu'on n'a pas un fil narratif imposé, qu'on est obligé de suivre.
Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est... en fait, je m'étais très vite posé la question de... enfin voilà, comme je voulais suivre des artistes, je voulais pas que ce soit un making-of de spectacle. Enfin, je voulais pas qu'il y ait une espèce d'intrigue où on commence par des répétitions et puis on arrive par une belle représentation de quelque chose. Et du coup, je m'étais dit que j'allais prendre le cadre d'une journée à Port-au-Prince, d'essayer d'un point de vue sonore de traverser une journée. Du coup, là, bah, c'est ce qui m'a aidé dans la construction du documentaire. On commence au lever du jour et puis on termine dans la nuit et puis enfin voilà, après ça reste très c'est pas du tout la ligne principale de la narration, mais moi c'est ce qui m'a aidé à cadrer les choses pour effectivement en me rendant compte qu'il y avait beaucoup de thèmes qui se croisaient, qu'il y avait beaucoup de types de séquences qui se croisaient aussi, il y avait des poèmes, des mises en situation, des interviews, et ça parle de l'exil, du rapport à l'art, enfin voilà, du coup ça me donnait un cadre pour mettre ces choses-là les unes à côté des autres, les unes en perspective des autres. Ouais.
Ouais. Alors il y a quelque chose aussi qui frappe, il y a la nostalgie du pays qui est toujours là, oui. Et puis il y a aussi cette nécessité de construire une mémoire collective. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment... on tente de faire oublier toutes ces choses, Alors, c'est très fort ce sentiment de vaincre à la fois la superstition et de raconter la vérité.
Ouais. Y a, en fait, donc, il y a eu une dictature en Haïti qui a duré plus de 30 ans, donc, qui a commencé en 1957, qui s'est arrêtée en 1986. Et donc elle a été menée, cette dictature, par François Duvalier et puis après par son fils Jean-Claude Duvalier. Aujourd'hui, 30 ans après, le travail de mémoire sur cette dictature n'est pas du tout fait. Bon, alors après, des spécialistes sur la question vont dire que c'est normal parce que ça prend du temps de faire ces choses-là. Mais en tout cas, il y a des procès qui commencent à être intentés sur cette dictature, qui sont très difficiles à mettre en place. Parce que les tontons Macoutes, enfin en tout cas toutes les personnes qui étaient présentes à cette époque-là, sont encore là aujourd'hui en Haïti et tournent autour très fort des instances de pouvoir là-bas.
Il n'y a pas d'accès libre à la justice.
Non, c'est très compliqué. Tout ce qui est institutionnel est très 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 compliqué. Tout ce travail-là se fait difficilement avec, et là-dessus les Ah oui, il y a les associations citoyennes où effectivement, enfin c'est par là que ça se passe en fait pour l'instant. C'est pas par les instances d'État que ces choses-là peuvent avoir lieu. Et du coup, comme l'accès à l'école est quelque chose qui se fait que pour 50% de la moitié, pour 50% de la population, il y a aussi tout un problème là-dessus de mémoire, de connaissance de son pays, de Oui, très peu de gens ont accès à ça aujourd'hui là-bas, encore.
Et alors l'importance d'un festival comme le Festival Quatre Chemins, justement peut-être pour raconter oralement certaines choses.
Oui, voilà. Et l'importance du festival, l'importance des artistes, l'importance de tout ça, effectivement, de pouvoir... que la transmission prend d'autres chemins que ceux... qu'on a l'habitude de connaître dans un pays où les instances démocratiques fonctionnent. Effectivement, les artistes ont, par exemple, les poètes Franck Etienne, Dany Laferrière, enfin sont tous des gens qui, Yannick Lahens, Lionel Trouillot, sont tous les intellectuels, les artistes. Quand ils sont en Haïti, ils sont dans les bars avec les jeunes gens que vous avez interviewés. Ils participent, enfin ils discutent avec eux, ils transmettent tout ce qu'ils peuvent transmettre. Il y a aussi la Focale qui m'a soutenue pour ce documentaire et un lieu où ils essayent. Enfin oui, chaque semaine il y a des conférences. Chaque semaine, voilà, les gens prennent ça par le côté et du coup c'est ça qui moi aussi m'a très fort touchée quand j'ai été là-bas, c'était de me rendre compte de l'importance de ça et de la nécessité de personnes qui sont peut-être qui ont une reconnaissance aujourd'hui, mais d'être dans la société et d'essayer de faire leur travail d'intellectuel et d'artiste. Ouais.
Il est fort suivi ce festival, je veux dire, quelle est l'importance au fond?
Oui, il est très suivi, il est très apprécié par les fois où j'y suis allée, à chaque fois les salles étaient pleines, le public se réjouit de voir du théâtre. Là, par exemple, c'était le carnaval le week-end passé, toute la semaine passée. Les Haïtiens adorent ces moments festifs et de rassemblement et de moments où on peut dépasser la réalité, la sublimer, se mettre en scène. Et c'est quelque chose de très présent dans la culture là-bas. Et ils sont très doués. Ils sont très doués pour faire ça.
Est-ce que justement ces rencontres et ce festival, par rapport à ta pratique de comédienne, ça a amené des nouvelles choses, des nouvelles questions ?
En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand... la première fois que j'y suis allée, j'avais un ami haïtien qui avait peur que je m'ennuie à Port-au-Prince parce qu'il disait « Mais qu'est-ce qu'elle va faire là toute seule, toute la journée ?» Donc il m'avait inscrit à un atelier de dramaturgie où un metteur en scène franco-haïtien était venu avec des cassettes vidéo de spectacles. Il pleut très fort.
Il pleut très fort, oui, le bruit que vous entendez à la radio, c'est ça. Si jamais il ne pleut pas chez vous, ça finira par arriver.
Mais donc il était venu avec des vidéos de grands noms de la mise en scène que moi j'avais vues à l'école, en fait, à l'INSAS, de Peter Brook, de Patrice Chéreau. Et c'est quand j'ai revu, par exemple, une mise en scène de La Cerisée avec eux, et de voir comment ils entendaient cette pièce de La Cerisée, comment ils recevaient tous les enjeux à des endroits beaucoup plus, qui me semblaient, dont les réponses étaient nécessaires. Enfin, je sais pas comment dire. J'avais l'impression que la pièce les touchait. L'idée de la révolution et du changement était quelque chose d'immensément concret, alors que ici autour de moi, ça reste un objet théâtral. Ouais. Donc oui, ça m'a très très fort confrontée. Enfin, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en témoigner, en fait. Mmh. Ouais.
Oui, il y a un des intervenants à un moment qui parle de la question d'un artiste ou d'un comédien qui n'est pas là pour faire la morale, ouais, aux spectateurs, mais en même temps la question se pose. Alors que c'est une question qu'on peut tout à fait se poser ici dans, ouais, différentes pratiques artistiques, c'est pas exactement la même question étant donné la situation dans laquelle ils sont.
Voilà, c'est-à-dire que ils doivent se, enfin, c'est comme s'il y avait une nécessité de si on prend la parole, c'est pour dire quoi de ce qu'on est. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça ici aussi, mais c'est la base, sûrement. Mais que là, il y a
Mais on sent aussi une grande maturité chez ces artistes, une maturité, ouais, artistique aussi, parce, ouais, que, en fait, ils utilisent leur propre langue souvent, ouais, et il y a un appel quand même à une prise de conscience, à la révolte. Ouais. Ils le disent, l'artiste doit être révolté. Il faut vaincre cette résignation, en fait.
Ouais. Et le festival Quatre Chemins a été créé dans ce sens-là, de dire il a été créé par Daniel Marcelin, Lionel Trouillot, Cito Cavé, dont il y a un des extraits dans le texte ici, qui voulait trouver qui voulait créer un endroit de parole et de parole poétique pour s'adresser à la cité en disant il faut que nous on prenne en charge quelque chose qui n'est pas pris en charge par les autres instances du pays. Ouais. Donc effectivement, les jeunes comédiens qui ont créé des spectacles dans le sillage de Cito Cavé, de Daniel Marcelin, de Lionel Trouillot, qui ont entre 50 et 60 ans aujourd'hui, ça fait partie de leur enseignement que d'avoir envisagé le théâtre comme ça, comme un outil avec lequel on parle de soi, du pays, de ce qu'on attend, de ce qu'on voudrait qu'il change.
Ouais. Le fait que les artistes sont allés par suite après le tremblement de terre, où beaucoup de gens sont allés à l'étranger, mais reviennent épisodiquement, puis repartent et reviennent, est-ce que ça ne fait pas justement bouger les mentalités de ce peuple qui finalement n'a jamais été libre et n'a jamais eu conscience de ses droits ?
C'est sûr que qui n'a jamais été libre, qui n'était jamais conscience de ses droits, ça, j'affirmerais pas quelque chose comme ça. Enfin,
C'est peut-être un peu trop fort, mais
je pense parce que voilà, c'est le, enfin, je veux dire, c'est un pays dans lequel on discute beaucoup, dans lequel il y a beaucoup de pensées autour de soi-même. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien. Enfin, mais en tout cas, effectivement, c'est sûr que le fait que il y ait une diaspora importante et qu'il y ait des allers-retours entre les États-Unis et le Canada, la France et Haïti, fait que effectivement les jeunes gens que j'ai rencontrés aujourd'hui vivent une vie tout à fait différente de celle de leurs parents. Rien que déjà de dire je veux être comédien, c'est quelque chose de très nouveau. De vouloir être comédien professionnel, de se dire qu'on va faire du théâtre, c'est quelque chose de très nouveau. Tous les trois intervenants que vous entendez dans le documentaire sont nés dans les années 80, après la dictature de Jean-Claude Duvalier, ont eu accès à l'université, ce qui était beaucoup plus rare de l'époque de leurs parents. Là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes gens qui vont à l'université. Après, on se pose les questions sur les qualités de cette université, mais donc c'est sûr, enfin voilà, et puis aussi Internet bien sûr change énormément de choses, enfin je veux dire en 20-30 ans la société haïtienne a beaucoup changé dans ses mentalités, ouais.
Est-ce que tu restes en contact avec Port-au-Prince, oui, les gens que tu as rencontrés
là-bas?
Oui,
bien sûr. Maud Malengré, que je remercie d'ailleurs ici vivement, Guy Régis Junior, les intervenants que vous entendez, oui, je suis, disons, au moins une fois par mois en contact avec eux. Mmh. Et puis j'espère bientôt pouvoir aller présenter le projet là-bas. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de mettre en place maintenant. Mais oui, de pouvoir faire une écoute publique là-bas, ça c'est ouais, le projet.
J'imagine bien.
Ouais.
À propos d'écoute, parce qu'on va bientôt devoir rendre l'antenne, oui. Bon ben voilà, là vous venez de l'entendre sur Radio Panique, mais peut-être en fait vous êtes arrivé en cours de route, ou bien même pendant l'entretien après, vous n'avez rien entendu du tout, donc il y a encore d'autres diffusions qui sont prévues. On va sans doute rediffuser sur Panique, mais je ne sais pas encore quand. Ça va aussi encore passer, je pense, dans Sur les Docs, sur France Culture.
Jeudi.
Et dans Par Oui Dire... à la première, c'est la concurrence, mais enfin bon, on peut le dire quand même. Plus d'autres écoutes publiques prévues, mais peut-être que ça reviendra un de ces jours. Est-ce qu'il est en écoute sur le site de la CSR?
Alors il devrait l'être dès cet après-midi ou demain matin. On s'en occupe.
Voilà. Tout le monde est équipé pour aller écouter ou réécouter. Alors il y a aussi un deuxième volet, on n'en a pas parlé.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Qui est plus purement sonore, en quelque sorte, une sorte de carte postale sonore de Port-au-Prince,
voilà,
qu'on a diffusé ici il y a une dizaine de jours et qu'on peut aller réécouter sur le site d'arteradio.com.
Voilà. Ça s'appelle Joue Cli Joue et ça a été réalisé avec Félix Blum qui a fait la prise de son de ce documentaire.
Voilà.
Mais merci beaucoup.
Ben, merci à toi. Et on espère te réentendre bientôt. D'autres projets radio
Oui, mais en...
Pour du long terme.
Voilà, c'est ça. En cours, vraiment au tout début de leur conception.
Ok. Ouais. On les entendra quand même. À bientôt.
À bientôt. Merci. Merci, au revoir.